Bonjour, shalom, assalam alaikum. Comme annoncé hier, le club La Presse se retrouve aujourd'hui, ce vendredi 17 mars 2023, à la Blue Zone. La Blue Zone où vient de s'ouvrir il y a quelques instants le premier salon de l'emploi en faveur des jeunes, une initiative de la Fondation Piscaré avec des partenaires dont en titre le ministère du développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Eh bien, c'est la Blue Zone qui nous accueille aujourd'hui pour ce numéro spécial du Club La Presse. Nous nous déplaçons avec les techniciens de Canal FM, à savoir le duo Vitogbe Kokou Michel Tominga et Jiro Dakucha. Nous avons également les techniciens du ministère du développement à la base à nos côtés. Émission que j'anime avec mon confrère et ami Olivier Yao Adja de AfriPress Arakiri. Bonjour Olivier.
Bonjour Sas et bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices en ligne. C'est un plaisir pour nous donc de nous retrouver dans le cadre de la Blue Zone pour assister à cette première édition donc de l'emploi et pour les jeunes.
Olivier, avec élégance, nous allons attendre la fin de l'émission pour dire un mot sur les conditions dans lesquelles cette émission s'anime, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr, avec beaucoup d'élégance et de diplomatie.
Merci, je rappelle juste que cette émission est délocalisée à l'occasion du premier salon qu'organise la Fondation Piscaré à l'intention des jeunes diplômés. La problématique de l'emploi également, les fléaux qui pèse sur les jeunes. Nous allons en parler avec comme personnes ressources divers invités qui viennent du ministère du développement à la base et de ses démembrements. Mais un petit mot d'abord avec la responsable de la Fondation Piscaré qui organise cette édition, Madame Toulassi Dina. Bonjour.
Bonjour Monsieur Saskaou, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toutes les auditrices aussi qui nous écoutent depuis la Blue Zone de Cacavelli.
Vous êtes bien de la Fondation Piscaré?
Je suis la responsable des programmes à la Fondation Piscaré.
Alors, et c'est vous qui organisez ce salon?
Oui, nous organisons le Salon de l'Emploi, la première édition, à l'intention des jeunes diplômés, demandeurs d'emploi, qui sont invités à participer aux différentes activités, entre autres des panels et des séances de coaching qui s'organisent sur le site de la Blue Zone de Cacavelli.
D'ici là, un petit mot sur la Fondation Piscaré. Qui est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites au quotidien?
D'accord. La Fondation Piscaré, elle a été créée en 2014. La Fondation Piscaré a été créée en 2014. Elle est d'utilité publique. Elle est une institution à but non lucratif. Elle milite, elle fait la promotion de la recherche et souhaite accompagner tous les travaux scientifiques dans le but de permettre à la jeunesse de pouvoir s'insérer professionnellement. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que le Salon de l'Emploi est organisé pour permettre aux entreprises et aux demandeurs d'emploi de pouvoir se rencontrer et d'échanger, histoire de connaître non seulement les possibilités d'emploi qui sont offertes aux jeunes, mais aussi de renforcer un tant soit peu les compétences de ces jeunes pour pouvoir avoir accès au marché de l'emploi. Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. Et pour ce salon, la Fondation Piscaré a à ses côtés des partenaires comme...
Nous avons le ministère du développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes qui nous accompagne. Nous avons la NPE. Nous avons Sounou,
l'Agence nationale pour l'emploi.
Oui, l'Agence nationale pour l'emploi. Nous avons le groupe Sounou qui nous accompagne. Nous avons Aura Bank qui est de nos côtés. Nous avons le Conseil réuni, le FAIEJ, la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes qui nous accompagne aussi dans le cadre de ce Salon de l'emploi.
Et vous avez également à vos côtés l'Université de Lomé qui est partenaire.
Qui est un partenaire stratégique qui nous accompagne dans le cadre de ce projet.
Merci à vous, Madame Toulassi Dina. Vous êtes à pied d'œuvre pour la question de logistique. Si vous avez le temps, vous restez avec nous. Sinon, vous pouvez aller et venir.
D'accord. Je suis là. Je vais pouvoir participer avec vous.
Merci. Je rappelle que sur le coup de 12 heures, nous allons ouvrir le studio, le micro au public qui est avec nous ici. Il y a un certain nombre de jeunes. Également, ouvrir l'émission au grand public, aux auditeurs. qui pourront appeler sur le numéro, je crois c'est le 91 36 63 75. Encore une fois, le 91 36 63 75. Vous appelez à partir de 12h pour émettre vos avis et pourquoi pas poser des questions sur les sujets que nous aurons développés d'ici là. Je rappelle que le thème central de ce salon, c'est l'emploi des jeunes diplômés, une responsabilité sociale. Eh bien, Olivier, l'émission va comporter deux parties principales. Dans un premier temps, nous allons voir avec les cadres du ministère quelles sont les possibilités, les opportunités que le Togo offre aux jeunes diplômés par le biais du ministère de développement à la base. Et puis, dans un second temps, nous allons également parler de quelques fléaux qui pèsent sur la jeunesse comme des épées de Damoclès. Et Olivier, comme nous le faisons en studio, c'est la même façon que nous animons ici. Tu peux intervenir quand tu veux. Juste le temps que j'accueille comme deuxième invité à ce studio, M. Souleymana. M. Souleymana, bonjour.
Bonjour, M. Sass Gaou.
Eh bien, vous êtes le chef division appui à l'auto-emploi au ministère, n'est-ce pas?
Oui, je suis chef division appui à l'auto-emploi à la direction de l'emploi des jeunes et coordonnateur du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie.
Merci. Vous avez écouté Mme Toulassi Djinan de la Fondation Piscaré qui nous a dit le pourquoi et le comment de ce salon où nous sommes. Alors dites-nous maintenant, vous, M. Souleymana, pourquoi le ministère de l'Emploi des Jeunes trouve-t-il important et opportun de s'associer à ce salon?
Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sass. Le ministère trouve opportun de s'associer à ce salon, à ce premier salon. D'abord, nous remercions la radio Canal FM qui nous donne cette opportunité de pouvoir parler au public des différentes opportunités et des différents programmes du ministère. Et ensuite, aux organisateurs, la Fondation Piscaré qui a bien voulu associer le ministère dans l'organisation de ce premier salon. Donc le ministère trouve opportun d'abord parce que le thème du salon qui est l'emploi des jeunes diplômés, une responsabilité sociale, c'est un thème qui interpelle le ministère. Ensuite, c'est un cadre de change permettant de trouver des solutions idoines au chômage de l'emploi des jeunes. Donc tout ce pour tout met en exergue, interpelle le ministère par rapport aux critères de l'emploi des jeunes. Donc c'est dans ce sens que le ministère est aux côtés de la Fondation Puscaré pour pouvoir rechercher des solutions, aider, parce que le problème de chômage des jeunes est un problème crucial dans toute l'Afrique. On peut dire toute l'Afrique, mais aussi particulièrement au Togo. Donc c'est dans ce cadre que le ministère s'associe à ce salon pour l'organiser. Merci.
Je vous en prie, M. Souleymana. Eh bien, ça fait une douzaine d'années que le ministère de l'Emploi à la base a initié un certain nombre d'opportunités, de programmes en faveur des jeunes pour leur employabilité. Eh bien, un certain chemin a été fait, n'est-ce pas, en 12 ans, M. Souleymana?
Oui, oui. Vraiment, en 12 ans, un chemin a été fait. C'est dans le cas de la promotion de l'emploi des jeunes, le ministère a élaboré le plan stratégique national pour l'emploi des jeunes. Donc, ce plan stratégique qui se repose sur 6 axes, dont je vais les citer ici. Le premier axe, c'est le plaidoyer et la promotion des politiques sectorielles de qualité intégrant l'emploi des jeunes. Le deuxième axe, c'est l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Le troisième axe, c'est le renforcement de la capacité de l'auto-emploi. Et le quatrième axe, c'est la diversification, la reconversion et la réduction du sous-emploi. Le cinquième s'articule autour du renforcement du système de financement et promotion de l'accès au financement en faveur de l'emploi des jeunes. Et le sixième intervient au niveau du pilotage et de la coordination. Donc c'est dans la mise en œuvre de ce plan stratégique qu'est né tous les programmes tels que le FAEJ, le PAEJSP, les programmes, les projets comme EJV, l'ANVT, pour permettre aux jeunes de pouvoir s'auto-employer et de pouvoir acquérir l'expérience pour pouvoir s'insérer dans la vie active.
Merci, Monsieur Souleymana. Mais est-ce que vous évaluez progressivement ou régulièrement ces différents axes pour vous rendre compte des éventuels écueils et trouver des modèles d'adaptation au fur et à mesure?
Oui, oui. Ce programme, ce plan stratégique a été évalué et a donné des pistes, des nouvelles pistes pour pouvoir améliorer l'employabilité des jeunes. Donc, c'est dans ce sens que de nouveaux programmes et projets sont en train d'être élaborés pour pouvoir permettre à ces jeunes de pouvoir mieux s'insérer et mieux s'adapter au milieu de l'emploi. Parce que actuellement, avec le programme, avec l'inadéquation emploi-formation, il est nécessaire de revoir les curricula de formation pour permettre à ces jeunes de pouvoir facilement s'insérer dans le monde du travail.
Bien, M. Souleymana Sadoukou, qui est chef de division appui à l'auto-emploi au ministère du Développement, la base de la jeunesse, de l'emploi des jeunes. À présent, nous allons nous tourner vers un autre partenaire de ce salon, à savoir M. Attar. Bonjour.
Oui, bonjour, M. Sass Gaou.
Eh bien, vous êtes de l'Agence nationale pour l'emploi, n'est-ce pas?
Oui, je suis de l'Agence nationale pour l'emploi. Je dis bonjour aux auditeurs et aux auditrices ainsi qu'au public ici présent. Je suis Atta Eyaole, je suis le directeur de l'administration des finances de l'Agence nationale pour l'emploi.
Alors, voulez-vous nous parler brièvement de l'ANPE, ce que vous êtes et ce que vous essayez de faire au bénéfice des jeunes diplômés de notre pays?
Ok, merci beaucoup. L'Agence nationale pour l'emploi a été créée, opérationnalisée en 2010. Elle a pour mission l'intermédiation sur le marché national et international. L'intermédiation, ça veut dire la mise en relation des demandeurs d'emploi et des employeurs, que ce soit au plan national comme au plan international. Au plan international, nous organisons la migration professionnelle régulière, légale et sécurisée. Et nous sommes aussi, la NPE a pour mission la promotion de l'entrepreneuriat. La NPE aide les jeunes à identifier dans leur environnement des projets et les accompagne jusqu'à l'élaboration du plan d'affaires. Et lorsque le plan d'affaires est évalué, la NPE envoie les jeunes vers les guichets de financement, notamment le FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, au PAEJSP, etc.
Merci.
La troisième mission, la production et la diffusion d'informations sur le marché du travail en vue de faciliter, en tout cas en vue de permettre l'orientation scolaire professionnelle des jeunes, mais afin de leur permettre de faire des choix judicieux en termes de filières de formation qui sont en lien avec les opportunités économiques, mais également faciliter la prise de décision par les autorités visant véritablement la promotion de l'emploi et de la formation.
Merci, ça fait plaisir de vous écouter, mais est-ce que vous estimez que l'ANP est suffisamment connue des jeunes Togolais?
Oui, je crois que l'ANP est connue et par rapport aux demandeurs d'emploi qui s'adressent à nous, aux demandeurs d'emploi qui s'inscrivent dans nos bases de données, qui viennent à nos guichets pour solliciter nos prestations. Et non seulement ils viennent à nos guichets, mais nous allons aussi vers eux pour, à travers donc ce salon où nous venons vers les jeunes pour leur apporter l'information, pour leur permettre de se connaître eux-mêmes, de faire leur bilan de compétences, et nous les mettons en même temps en relation avec les entreprises. Nous allons aussi dans les établissements scolaires, dans les universités, pour parler des questions de l'emploi, comment s'orienter, comment trouver son emploi et le maintenir. Merci.
Et pour ce qui concerne l'intermédiation, est-ce que également des sociétés publiques, parapubliques ou privées recourent à vous pour rechercher des jeunes à recruter?
Oui, toutes les sociétés privées, parapubliques et publiques s'adressent à l'ANPE avec ils envoient des profils qu'ils recherchent. Et donc, nous, on a dans notre base de données les profils des demandeurs d'emploi. Et à partir de cette base, nous envoyons des profils à ces entreprises. Et à l'issue, donc, l'entreprise elle-même peut organiser son entretien, tout comme l'entreprise peut solliciter l'ANPE pour organiser le recrutement pour elle. Et ces prestations de recrutement, les prestations sont totalement gratuites. C'est-à-dire que l'ANPE ne fait pas du profit sur les recrutements.
Merci. Alors, M. Atta, est-ce que vous pouvez nous dire, nous parler de la situation du chômage au Togo et du sous-emploi, chiffres à l'appui, si la situation du chômage et du sous-emploi s'améliore ou bien se dégrade progressivement?
Oui, c'est une question très pertinente. Et vous savez que la problématique de l'emploi est très, très holistique. Et donc, aucun individu à lui seul, aucune communauté ne peut à elle seule apporter la solution à cette problématique. Et donc, nous devons mener des actions concertées pour pouvoir atteindre, en tout cas améliorer l'insertion professionnelle des jeunes. S'agissant du sous-emploi, permettez-moi d'aller dans un cadre beaucoup plus technique. Parce que quand vous lisez les indicateurs du sous-emploi et du chômage qui ont été calculés par les enquêtes KIB, l'enquête ERIESI, je ne veux pas me mettre dans une comparaison parce que les méthodologies de calcul des indicateurs de ces deux types d'enquêtes ne sont pas les mêmes. Donc au jour d'aujourd'hui, je vais juste parler de l'enquête ERIESI qui a été une enquête harmonisée qui a été menée dans les pays de l'UMOA en 2017. Cette enquête dit que le taux combiné de chômage et de sous-emploi au Togo est de 16,1%. Mais ce qui est très, très la problématique à laquelle on doit s'adresser, c'est la sous-utilisation de la main-d'œuvre. Donc, en réalité, les jeunes font quelque chose pour se prendre en charge. Mais parfois, ils le font en temps partiel, pas du tout. Parfois, il y a une raison ou une autre qui ne permet pas à un jeune de participer au marché du travail. Donc, en termes de taux, le taux de chômage est de 3,9% en 2017 et le taux de sous-emploi, le taux combiné, les deux taux, sous-emploi et chômage, c'est 16,1%. Voilà. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Atta. Encore une question. Chaque année, nous assistons au fait que des milliers de jeunes diplômés de tout degré sont déversés sur le marché de l'emploi. Alors que Monsieur Souleymana parlait tantôt encore de la problématique de l'inadéquation entre les curricula d'enseignement que nous diffusons dans nos écoles et les réalités du marché de l'emploi. Alors vous, à l'ANPE, est-ce que vous êtes conscient de cette réalité et quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez recommander au pouvoir public?
Ok, je vous remercie. L'ANPE est vraiment consciente parce que les jeunes viennent pleurer chaque jour à nos guichets. Et même les jeunes qui nous connaissent, ils nous rencontrent dans la rue, ils nous posent la problématique. En tout cas, ils veulent trouver un emploi pour s'insérer. Nous sommes conscients de la problématique de l'adéquation formation-emploi. La première des choses, c'est que au jour d'aujourd'hui, il y a un stock de chômeurs qui existe. Et dans ce stock de chômeurs, il y a des profils qui ne trouvent pas leur répondant auprès des employeurs. Qu'est-ce que l'Agence nationale pour l'emploi fait? L'Agence nationale pour l'emploi identifie des métiers porteurs d'emploi et procède à des formations professionnelles d'adaptation ou de reconversion en lien, comme je l'ai dit, avec les opportunités d'emploi. L'autre chose, les chômeurs là, ceux qui s'adressent à nous également, on leur donne des formations de renforcement d'employabilité. On leur forme en technique de recherche d'emploi, comment faire la recherche de l'emploi, comment rédiger son CV, sa lettre de motivation, comment se comporter en entretien d'embauche. Nous leur donnons aussi les soft skills, ce qu'on appelle les compétences transversales. Généralement, c'est des compétences également. Lorsque les employeurs nous adressent des profils à recruter, il met des compétences transversales, généralement, qu'on ne retrouve pas dans le système de formation. Et là, nous formons ces jeunes, nous leur donnons ces compétences, leur permettant de s'intégrer facilement dans le monde socio-professionnel. Au-delà de ça, M. Souleymane a parlé des curricula dont les contenus sont un peu dépassés par rapport à l'évolution. Aujourd'hui, l'approche du gouvernement dans laquelle l'ANP s'inscrit, c'est l'approche par les chaînes de valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État a identifié des secteurs porteurs dans lesquels il y a des métiers, et dans ces métiers, on va identifier les potentialités d'emploi qui existent, et en fonction de ça, l'ANP va mener des analyses sectorielles pour identifier les besoins quantitatifs et qualitatifs en compétences. Et ce faisant, l'agence donne des signaux au système éducatif pour pouvoir former des gens afin qu'ils puissent s'insérer dans le tissu économique.
Merci M. Atta qui nous vient de l'ANP. À présent, le quatrième invité de ce jour, c'est un jeune qui a choisi de se lancer, de se tracer son sillon lui-même sur le marché de l'emploi. Monsieur Otou, bonjour.
Bonjour Monsieur Sass.
Monsieur Otou quoi?
Kodjo Haït.
Ah, vous êtes né lundi?
Justement.
Eh bien, Otou Kodjo, vous êtes jeune chef d'entreprise. Eh bien, dites-nous comment vous avez pu vous lancer sur ce chemin.
Ok, merci pour l'invitation. Alors, je suis Kodjo Haït Otou, ingénieur génie civil de formation. Je suis opérationnel sinon dans le milieu professionnel depuis 2012. Et de 2012 en 2015, j'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises BTP de la place, autant sur des projets nationaux que internationaux. Mais en 2016, je me suis lancé à mon propre compte où j'ai créé une première entreprise qui fait dans l'exécution des marchés publics, qui aujourd'hui continue d'exister. Mais en 2020, face à beaucoup de problèmes dus à peut-être, je dirais, à la mauvaise gouvernance, manque d'aptitude qu'il faut, je me suis retrouvé dans une situation très délicate avec cette entreprise et je me suis approché des institutions qu'il faut.
Lesquelles par exemple?
Le FAEJ. Et en 2020, je lançais une nouvelle société qui s'appelle aujourd'hui Idoli Africa, qui est une plateforme numérique, une centrale à ressources dans le domaine des BTP.
Mm-hmm. Donc, vous avez dû passer par l'une des filières du ministère, à savoir le FAEJ, pour lancer votre entreprise du nom de
Idoli Africa.
Idoli Africa, ça veut dire.
Il y a du travail en Afrique.
L'essentiel, c'est d'avoir l'idée, hein, l'idée, et puis avoir le courage de se lancer, de se jeter à l'eau.
Justement.
Alors justement, quand on se jette à l'eau là, est-ce qu'on ne se noie pas quand on est jeune chef d'entreprise?
Il y a beaucoup de chances qu'on se noie dès le début. Et comme je venais de le dire, j'ai eu des soucis, j'ai eu des problèmes. Mais comme je le dis habituellement, tous les problèmes des jeunes, ça se tourne autour de thématiques, la formation et l'information. Lorsque on n'est pas bien formé, ou bien lorsqu'on n'a pas les connaissances qu'il faut, on a de grandes chances de se noyer. Donc, il faut aussi avoir l'information de se former. Et vers où, ou bien vers qui il faut aller pour pouvoir avoir la formation adéquate. Je pense que mes prédécesseurs parlaient d'une inadéquation entre la formation aujourd'hui et le domaine de l'emploi. Donc aujourd'hui, c'est de pouvoir aller vers les institutions qu'il faut, qui sont mises en place, que ce soit par l'État ou bien par les parties privées, pour pouvoir avoir ce qu'il faut, les aptitudes qu'il faut, afin de braver les difficultés et avancer. Voilà.
Alors comment se porte ta société aujourd'hui, si on peut avoir une idée de combien de personnes tu emploies aujourd'hui?
Dans l'Afrique, aujourd'hui, c'est le chouchou dans les BTP. C'est le chouchou de toutes les entreprises BTP parce qu'elle vient justement répondre à une problématique très, très, très importante et pertinente, en ce sens où elle fournit de la main-d'œuvre, du matériel d'exécution et des matériaux d'exécution à toutes ces entreprises BTP qui sont légalement installées sur le territoire. Aujourd'hui, elle emploie 10 personnes directes qui sont en emploi direct avec elle. Sur le terrain, il y a au moins une trentaine de personnes qui sont sur les navettes journalières et c'est plus de 2000 personnes qui sont placées du jour au lendemain depuis l'existence de cette société. Voilà.
Monsieur Otou, il ne s'agit pas de donner des leçons, mais si un jeune diplômé t'approchait avec l'idée de vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu aurais à lui dire?
Comme je le disais tantôt, il est question de choisir le bon chemin. Mais d'entrée de jeu, on ne peut pas savoir tout de suite si on est sur le bon chemin. Mais c'est de pouvoir savoir vers qui il faut s'orienter pour pouvoir avoir peut-être, on le dit aujourd'hui, le terme mentor, d'avoir quelqu'un qui peut nous orienter pour pouvoir faire les choix des domaines ou bien des activités que nous embrassons, et aussi faire le choix de comment est-ce que mettre en place des stratégies pour pouvoir faire évoluer nos business que nous mettons en place. Voilà.
Merci de partager avec nous ton expérience. Nous t'assurons de notre bienveillance pour que ton entreprise réalise effectivement le mot dont elle est porteur, elle est porteuse, pardon, et dans les Africa. Que ce ne soit pas des dizaines, mais des centaines, des milliers de jeunes que tu emploies. Monsieur Souleymane, ça fait plaisir d'écouter un jeune comme notre ami Otou nous parler de son expérience. Alors, vous qui côtoyez les jeunes porteurs d'idées d'entreprise, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Quelles sont les qualités nécessaires qu'une jeune devrait avoir pour réussir dans la vie de l'entreprise?
Merci beaucoup, monsieur Sass. Nous sommes dans le domaine de l'encadrement des jeunes porteurs d'idées d'entreprise. Donc souvent, ce que nous leur conseillons, qu'ils doivent avoir comme qualité, d'abord la détermination. Un jeune qui veut entreprendre doit être déterminé, doit être engagé, doit savoir ce qu'il doit faire. Ensuite, il doit avoir le goût du travail et savoir que c'est des risques qu'il est en train de prendre. Donc, il doit prendre des risques parce que on dit qu'il ne risque rien à rien. D'abord, comme mon jeune entrepreneur vient de le dire, quand tu prends le chemin de l'entrepreneur, c'est un chemin semé d'embûches, de piquants. Donc, c'est un chemin un peu dur. Donc, le jeune doit vraiment prendre des risques. Ensuite, le jeune doit être discipliné. Il doit être autodiscipliné parce qu'on ne doit pas être désordonné en matière d'entrepreneuriat. Vous devez être discipliné et avoir une forte personnalité de vous-même pour pouvoir s'imposer. Et ensuite, un jeune doit pouvoir communiquer. Si vous voulez vous lancer dans l'entreprise, vous avez un produit sous la main et vous n'arrivez pas à communiquer, mais il faut savoir que votre produit est voué à l'échec. Donc, vous devez avoir l'art de communiquer et avoir l'esprit de créativité et l'esprit d'initiative. Et ensuite, il faut aussi avoir l'esprit d'ouverture. Il faut être ouvert au public, ouvert aux autres pour recevoir des conseils afin de pouvoir vous lancer et réussir dans votre activité entrepreneuriale.
Merci, monsieur Souleymane. Encore une question. La feuille de route gouvernementale, vous la connaissez?
Ah oui, oui.
Eh bien, notre fameuse feuille de route gouvernementale prévoit de créer jusqu'à 500 000 emplois pour les jeunes à l'horizon 2025. Or, nous sommes en mars 2023. D'ici à 2025, c'est 2 ans pour les uns, 3 ans pour les autres. Qu'est-ce que le gouvernement, par votre ministère, prévoit pour qu'on atteigne effectivement la barre des 500 000 emplois en 2025?
D'abord, la barre de 500 000 emplois, ça concerne tout le gouvernement. Ce n'est pas uniquement le ministère du développement à la base. Et au niveau de l'axe 2 de la feuille gouvernementale qui est intitulé « Dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur l'effort de l'économie », prévoit plusieurs projets et programmes au niveau d'abord du ministère et au niveau des autres ministères. Donc, ces projets et programmes qui s'articule autour de l'agriculture, autour des services, autour des transports logistiques, tous ces projets mis en œuvre permettront d'atteindre la barre fixée par le gouvernement. Actuellement, le chemin a été fait. Nous pouvons en quelque sorte donner quelques chiffres créés que le ministère a permis de créer au niveau de l'an 2021. Mais le chemin qui reste pendant 3 ans, avec la mise en œuvre de tous ces projets des agropôles, de la transformation du port en hub, logistique, avec la création de MIFA et autres. Je pense que en 3 ans qui restent, le pays, le gouvernement pourra atteindre la barre des 500 000 emplois.
Donc, vous avez la foi?
J'ai la foi.
Je voudrais bien partager votre foi.
J'ai la foi.
Merci. Olivier, pour clore cette première partie, nous avons écouté M. Souleymana qui nous a rappelé toutes les opportunités qu'offre le ministère du Développement à la base pour les jeunes. On a également écouté M. Atta dans l'intermédiation que joue la NPE entre le monde du travail et les jeunes. Nous avons également partagé l'expérience bien prometteuse de notre jeune ami Otou. Qu'as-tu à dire pour nous résumer tout cela?
Oui, bon, je félicite d'abord l'initiative. Hein. Et si ça n'avait pas existé, il fallait la créer. Et la jeunesse, on le dit toujours, c'est la relève du pays ou du lendemain du pays. Et donc, il faut d'abord mieux l'encadrer, mieux la former. Et ensuite, après cette formation, il faut lui trouver des débouchés. Aujourd'hui, on parle plus d'entrepreneuriat et de prise en charge donc par soi-même. Et cela, donc, on voit que plusieurs jeunes sont en train donc d'embrasser cet entrepreneuriat. Et certains réussissent. Par contre, certains, et ça ne va pas encore. Ces expériences, comme celle de Monsieur Outou, moi, m'impressionnent et ça peut servir de référence pour la jeunesse togolaise, parce qu'on a toujours besoin de s'inspirer du parcours de quelqu'un. Et nous avons des parcours comme celle de ces jeunes-là et ceux de ces jeunes-là qui peut inspirer la jeunesse, qui peut aussi inspirer ceux qui sont aujourd'hui sans emploi. Bon, tout ceci étant dit, je veux aussi féliciter, encourager hein, le ministère du Développement à la base et de l'emploi des jeunes et ses directions. Maintenant, il faut quand même se poser certaines questions. Et dans notre pays, tous ces jeunes qui créent des entreprises, et je l'ai déjà dit, combien réussissent à sortir hein, et à avoir ces entreprises pérennes et rentables pour le pays? Et quels sont les écueils? Quelles sont les difficultés que ces jeunes rencontrent? Parfois, ces difficultés sont inhérentes à nous-mêmes, en tant que personnes, mais parfois, c'est l'environnement même du travail, l'environnement des affaires, aussi de notre pays, qui parfois font que nous avons des difficultés. En tant que journaliste, en tant que et professionnel des médias, nos médias sont aussi des organes de presse aujourd'hui. Et on nous a amené à créer des entreprises ou des sociétés de presse autour de nos organes. Et là, nous avons découvert le monde de l'entrepreneuriat, qui n'est pas un monde du tout facile, avec ses difficultés, avec ses problèmes externes, avec ses adversaires, avec le cadre même de l'entreprise ou du travail qui est très difficile. Donc, il faut féliciter ces jeunes-là, mais aussi demander à l'État, puisque l'État fait déjà beaucoup d'efforts, mais encore une fois, l'État peut faire mieux. Puisque si le gouvernement, si l'État ne nous aide pas, si l'État ne crée pas les conditions ou l'environnement de prospérité des entreprises et surtout celles des jeunes, et les difficultés vont toujours persister. Donc, il faut, en résumé, nous faciliter la tâche à la jeunesse sur par rapport donc au cadre fiscal et à tout ce qui entoure la création d'une entreprise.
Merci. Je connais ton humilité. Sinon, tu aurais pu nous rappeler que toi-même, tu es jeune entrepreneur, oui. que tu diriges aussi bien Afrépress que Harakiri et que tu emploies un certain nombre de jeunes dans tes deux entreprises. Eh bien, pour résumer cette première partie, féliciter aussi bien les bonnes actions que font les uns les autres, mais pour oser, il faut avoir des idées, il faut avoir l'audace, il faut avoir la perspicacité, la discipline, l'ardeur au travail. Ne pas confondre, par exemple, le capital de la société à l'argent de poche. Également, demander que le gouvernement montre davantage les voies, crée davantage d'opportunités. Les jeunes entrepreneurs se plaignent par exemple de l'étroitesse du marché togolais, de la barrière des langues, mais également de la pression fiscale. Monsieur Souleymana doit en savoir quelque chose. Eh bien, d'autres difficultés. Mais on ne va pas tout vider aujourd'hui. Juste le temps de vous remercier. Vous, monsieur Autour, à qui je souhaite vraiment bonne chance. À toi et puis à Olivier également. Et à travers vous, à tous les jeunes qui se lancent dans l'entreprise. Beaucoup également d'initiatives à l'ANP, au ministère, de créer d'améliorer davantage le cadre pour les jeunes pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous oui, alors, pour clore la deuxième partie en quelques instants, nous offrons l'occasion à un jeune dans la salle, à un ou bien à une jeune. Monsieur Salami, il est là? Alors, vous voulez bien nous rejoindre rapidement sur le au studio? Ayez le courage d'arriver. Monsieur Salami, un petit mot sur vous-même.
Bonjour Sass et bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau.
Oui.
Bonjour à tous les auditeurs de Canal FM.
Merci.
Merci beaucoup Sass pour cette opportunité que vous nous offrez de pouvoir parler de l'entrepreneuriat.
C'est un plaisir, c'est un plaisir.
Nous faisons pour la création de l'emploi.
Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme votre apport dans cette ambiance de création d'emploi?
Ok, je suis un entrepreneur. J'ai été formé par le PPEJ, l'ex-office, comme le disait le coordonnateur de PPEJ. Donc, nous avons suivi la formation en 2006. Et juste après la formation, j'ai créé le cabinet. Et après, j'ai créé également deux autres entreprises, Junabio. Vous connaissez peut-être les juges Junabio. Je suis le promoteur de Junabio. Et également les vitrines qui font la promotion la promotion et la commercialisation des produits locaux. Je suis également le promoteur de ces boutiques. Donc, j'avoue que l'entrepreneuriat, comme vous l'avez si bien dit, ce n'est pas aussi facile, mais c'est un chemin honorable pour que les jeunes s'offrent un emploi stable. Mm-hmm. Et c'est la meilleure façon également de créer de la richesse et de l'emploi. Donc, tout ce que nous faisons, nous disons également merci au gouvernement qui nous a donné cette opportunité d'abord de nous avoir formés. Parce que si nous n'avons pas la qualification métier, le savoir-faire, exercer l'entrepreneuriat serait compliqué. Maintenant, après ce savoir-faire qu'on nous a donné, nous nous sommes lancés et aujourd'hui, nous pouvons dire que ça évolue. Bon, les difficultés, on en a toujours,
oui.
Mais par la grâce de Dieu, nous arrivons quand même à atteindre les objectifs que nous sommes.
Merci à vous tous. Juste pour nous autres, quand on est salarié, on peut juste avoir un salaire pour s'en sortir du premier à la fin du mois. Mais si on veut être riche, il faut créer sa propre entreprise soi-même. Ça, c'est ce que la vie nous enseigne. Merci à vous pour votre disponibilité. Mais nous allons ouvrir maintenant le deuxième chapitre de cette émission, à savoir toutes ces opportunités dont nous parlons pour les jeunes. Il y en a, mais il y a également quelques fléaux qui pèsent comme des épées de Damoclès sur la tête des jeunes. Si les jeunes ne savent pas s'en sortir, ils peuvent sombrer. Je ne veux pas parler de la prostitution, je ne veux pas parler de la paresse, je ne veux pas parler des drogues, mais nous allons plutôt inviter les spécialistes à nos côtés, tout en priant Monsieur Autour, Monsieur Atta, Monsieur Souleymana, de disposer de nous attendre dans la salle. Je voudrais bien accueillir Madame Agbi, elle est là avec nous. Madame Agbi, s'il vous plaît, vous êtes la bienvenue au plateau. Également, Docteur Ourosama, voilà, j'allais me plaindre des femmes, maintenant j'en ai deux sur le coup. Madame Agui à ma droite et Docteur Ourosama à ma gauche. Olivier, tu vois comment je suis bien logé.
Absolument.
Merci également. Monsieur Edry, il est avec nous. Monsieur Edry, voilà. Et également Monsieur Mochon. Ok, une seconde, le temps que nous vous ayons au studio dans un moment. Eh bien, Madame Agbi, bonjour.
Bonjour, Sass.
Et
bonjour.
Merci.
Le public présent.
À ce studio improvisé à la Blue Zone. Merci. Eh bien, j'ai parlé tantôt des opportunités, mais également ces fléaux qui menace les jeunes. Alors, vous qui êtes spécialiste de la chose, voulez-vous nous parler de ces fléaux qui menacent nos jeunes, justement?
Merci beaucoup, Monsieur Sass Gaou. Et nous remercions tous les auditeurs et auditrices qui sont loin, mais qui sont en train de nous écouter en ce moment. Comme vous venez de dire, la première partie de cette émission est consacrée aux différentes opportunités qui s'offrent aux jeunes. La seconde partie est consacrée aux différents fléaux qui peuvent tirer les jeunes vers le bas. Donc, pour parler ou passer en revue quelques fléaux, je vais aborder ces fléaux sur trois aspects.
Oui.
Le premier aspect concerne tout ce que nous savons comme des substances ou produits psychoactifs. Nous pouvons citer notamment la drogue, le tabac, l'alcool, la chicha, etc., etc. Mais il y a les fléaux qui sont aussi associés à tout ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Nous voulons nommer, par exemple, les IST, le VIH, SIDA, les grossesses précoces, et également la prostitution, pour ne citer que ces fléaux. Il y a aussi des fléaux émergents aujourd'hui qui sont en lien avec l'Internet et les réseaux sociaux. Et ce fléau-là, c'est le mauvais usage ou la mauvaise utilisation de tout ce qui est numérique.
Merci.
Je vous remercie.
Je vous en prie, Madame Agbi. Bien, ces fléaux, il y a les produits et les substances psychoactives. Il y a également ces fléaux qui sont liés à notre sexualité incontrôlée. Et la troisième catégorie.
Nous avons parlé de l'utilisation, la mauvaise utilisation de l'Internet, des réseaux sociaux.
Mais je pourrais risquer d'y ajouter également certains fléaux auxquels nous assistons maintenant, le découragement. Le découragement et la démission qui sont encore plus terribles que ce que Madame Agbi vient de nous dire. Docteur Ourosama, bonjour à vous. Eh bien, Madame Agbi nous parlait tantôt des produits, des substances psychoactives. Elle a parlé des alcools, elle a parlé des différentes sortes de tabac, des drogues. Elle a même parlé de chicha. Or, c'est une mode actuellement. Allez un peu partout à Lomé, vous voyez des centres de chicha. Donc, dites-nous, docteur Ourosama, avec votre expérience, est-ce que la chicha est, oui ou non, une drogue?
Oui, bien sûr que la chicha est une drogue. On ne peut pas citer la drogue et rater la chicha. Nous la classons dans le tabac. Parce que quand nous parlons drogue, il y a trois catégories. Il y a l'alcool, il y a le tabac et il y a les drogues. Le cannabis et tout ce qui l'accompagne. Mais la chicha, nous le mettons dans le tabac, dans le groupe de tabac. Mais sauf qu'actuellement, ce que nous vivons, ce n'est plus le tabac, la nicotine qui est dans la chicha, mais les jeunes ont leur cocktail. On peut mettre du cannabis dans la chicha, on peut mettre la cocaïne dans la chicha. Donc aujourd'hui, c'est un cocktail. Ce n'est même plus ce qui était à la base. Donc la chicha est bien, elle est bien une drogue.
Eh bien, en français facile, la chicha est bel et bien une drogue. Et mieux ou pire, avec tous ces mélanges et ces cocktails qu'on met dedans, la situation est d'autant plus grave.
Oui.
Alors, comment pouvez-vous expliquer que la chicha est actuellement à la mode un peu partout à Lomé, docteur?
Et quand vous interrogez les jeunes, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte que c'est une drogue. Comme si on ne le leur dit pas. C'est comme la cigarette. Vous prenez l'alcool et la cigarette, dans la classification, on vous parle de drogue licite ou de drogue légale. Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de pénalité à ce que on prenne ces drogues-là. Mais cela ne veut pas dire, ça ne dédouane pas de leur dangerosité, hein. Quand vous regardez un peu les accidents à la fin de l'année, la plupart ont été causés par quoi? L'alcool. Donc ce n'est pas parce qu'on les appelle légales que... Et cette légalité aussi, c'est par rapport au pays. Vous irez dans un pays, on vous dira que l'alcool est interdit. Mais au Togo, c'est vrai que c'est... Donc sous couvert cette histoire de drogue légale, la chicha a été vraiment distribuée au point où on a dépassé même les bornes. À la dernière rencontre sur la collecte des données dans la sous-région, on parle de Wendou et de Pendou. il est vraiment ressorti que l'État doit recadrer justement la vente de l'alcool. On peut pas comprendre qu'un bar soit annexé à une école. Oui. Ou même que dans les écoles, on vend de l'alcool, les petits sachets, Warba, quoi, il y a plein de noms. Ou même qu'à l'école, on vend même Roche, hein. Roche que les enfants prisent vraiment là, c'est de la caféine. Oui, c'est de la caféine. Ce n'est pas permis du tout. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi vous allez voir depuis le mois de janvier, l'État commençait par sévir en disant dégagez. S'il y a un restaurant ou bien un bar à côté d'une école, allez attention. Qu'est-ce que les bonnes femmes nous vendent?
Merci à merci vous, Madame Abim, Docteur Ourosama. Donc les drogues dans la chicha sont des substances et des produits psychoactifs. Mais comme la problématique, nous parlons aujourd'hui de l'emploi. Alors, en quoi est-ce que les drogues dans la chicha impactent la vie des jeunes qui soient à la recherche de l'emploi ou bien s'ils veulent en créer? Docteur Ourosama.
Merci beaucoup. Je viens tout de suite de vous parler du Wendou et du Pendou. C'est un outil de collecte de données. Le Wendou, c'est au niveau national et le Pendou au niveau de la sous-région. Pourquoi est-ce qu'il faut un outil de collecte au niveau de la sous-région? Parce que aujourd'hui, tous les États sont dépassés par la question de la drogue. Au point où c'est devenu maintenant des regroupements régionaux, sous-régionaux pour pouvoir lutter contre. Quand vous prenez les résultats 2021-2022 du Wendou pour le Togo, c'est vrai que nous n'avons pas des données déjà d'envergure nationale parce qu'il faudrait faire une enquête publique, non. Mais toutes les localités ou bien toutes les structures qui s'occupent des problèmes d'addiction, au Togo on en a 13. Tout confondu, quand nous avons sorti les résultats, je vous mets 2021, les élèves et étudiants qui utilisent la drogue, on a 18,38%. Oui. Et quand moi je prends ma structure, c'est élève et étudiant qui a la tête. En 2022, ils sont, ça c'est 2021, 2022, ils sont 12,95%. Alors on peut se poser la question, quand nous savons que la drogue, quand elle arrive dans le cerveau du jeune, quand on dit du jeune par rapport à la drogue, c'est entre 12 et 24 ans. Avant les 25 ans, le cerveau n'a pas encore fini sa maturation. Et quand la drogue va se poser sur un cerveau immature, il détruit plus. Et il va détruire quoi? Toutes les zones qui participent à l'apprentissage, la mémorisation, le raisonnement. Vous voyez tout ça là? Et imaginons, posons-nous la question, d'ici 2020, la relève là, ce serait quoi? Et le pire, c'est que aujourd'hui, beaucoup d'aliments qui se vendent dans les écoles, on met de la drogue, même le jus. Et hier encore, j'étais avec le coordinateur de la santé mentale qui nous dit que tout dernièrement, dans 5 écoles, on a retrouvé 10 personnes habillées comme des élèves. En fait, ils ne sont pas des élèves pour venir vendre la drogue aux élèves. Maintenant, parmi eux, ça, ceux qui n'ont pas d'emploi et qui prennent de la drogue, 2021, le pourcentage est à 31,25%. 2022, 32,20%. Les sans-emploi qui sont dans l'addiction. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas d'emploi désespérés qu'ils prennent la drogue ou bien c'est parce qu'ils prennent la drogue qu'ils sont sans-emploi? La question est pour
ça
nous tous.
Hein. En tout cas, ça fait froid dans le dos, hein, surtout quand on est jeune et qu'on découvre que par imprudence ou bien par suivisme, on peut devenir drogué et mettre toute sa vie en danger. On devrait réfléchir. Les drogués, il y en a parmi nous. Il y a des structures qui travaillent à la prise en charge pour accompagner ceux qui déjà sont dans l'addiction. Nous avons le bonheur d'avoir ce studio, M. Edry. Bonjour.
Oui, bonjour, Sasgaou.
Vous
bonjour,
êtes de l'ONG RAPA. Oui. Alors, c'est quoi RAPA?
Oui, RAPA Recherche Action, Prévention Accompagnement des Addictions. Et donc, nous avons pour objectif de faire de la prévention pour limiter les nouveaux cas d'usagers et aussi accompagner les personnes qui sont déjà dans la consommation à sortir ou à arrêter leur consommation. Et donc, pour atteindre à ces deux objectifs, nous intervenons prioritairement dans 4 domaines, notamment la recherche-étude, la prévention, le renforcement des capacités et puis l'accompagnement psychosocial. Et donc, je voudrais un peu revenir sur la question de la chicha. Il faut dire que en 2018, nous avons fait une enquête légère sur ce phénomène de la consommation de la chicha dans la ville de Lomé, et sur un échantillon de 100 jeunes usagers. Et donc, 54% méconnaissent la dangerosité de ce fréau, de la consommation de la chicha. Donc, ce qui voudrait dire que voilà, nous sommes tous conscients aujourd'hui de l'ampleur de ce phénomène qui est à la mode, qui prend la voûte. Et du coup, cette enquête, donc, nous avons quand même pu avoir quelques résultats et quelques recommandations qui nous ont permis de mettre en place quelques outils de sensibilisation à l'endroit des jeunes.
Dans justement
la production d'un dépliant, avec des messages courts que nous distribuons au cours de nos séances de sensibilisation. Je rappelle que nous avons déjà fait ces séances de sensibilisation dans quelques établissements scolaires où on a mis un accent particulier sur la dangerosité de la chicha. Quand on prend la chicha, c'est pas comme la cigarette, où il y a énormément de la fumée qui est consommée, inhalée, et cette fumée qui contient le monoxyde de carbone très très dangereux pour l'organisme, mais aussi le goudron, des éléments qui provoquent très rapidement le cancer. Et donc les élèves ont été informés sur toutes ces informations et d'autres en ont pris conscience que voilà, c'est vraiment un élément qui est très dangereux pour la santé. Et là, je voudrais repartir sur la présentation en disant que voilà, nous faisons des recherches pour mieux comprendre le phénomène de la consommation de la drogue. Nous faisons aussi beaucoup de la prévention pour informer, sensibiliser les jeunes qui constituent aujourd'hui la première cible, mais aussi les familles qui entourent les jeunes pour pouvoir vraiment toucher le maximum de la population. Nous formons aussi sur la thématique et nous avons aussi un volet très important, un volet qui accompagne ceux qui sont déjà dans la consommation, des psychologues qui animent le centre. Et là, aujourd'hui, nous avons plusieurs patients qui sont accompagnés. Et en dehors des consultations individuelles, nous avons des activités de bien-être qui sont animées au centre, histoire de pouvoir les occuper à aller consacrer plus de temps à la consommation. Et nous avons aussi des groupes de parole dédiés aux mamans des usagers, aux jeunes usagers eux-mêmes et aux jeunes qui sont dans une situation d'aller vers la consommation.
Merci. Là. Ce que je sais, c'est que la drogue est un cercle vicieux. Il ne faut même pas tenter la première fois. Parce que la première fois peut être pour toujours et vous êtes pris dans l'engrenage. Monsieur Ayaovi Bonchon, bonjour.
Bonjour, Sas.
Vous êtes coordinateur de la Croix Bleue. Vous intervenez également dans la prise en charge des victimes de la drogue. Eh bien, docteur Oroussama parlait tantôt des chômeurs qui sont tombés dans la drogue. Et elle ironisait un peu. Est-ce que c'est parce que ces jeunes-là n'ont pas de travail qu'ils ont cédé à la drogue, ou bien c'est parce qu'ils ont touché à la drogue qu'ils sont chômeurs? Alors, avez-vous des éléments de réponse à cette question?
Bon, c'est ça vraiment la question. Et c'est difficile parce que quand vous raisonnez bien, vous allez trouver que ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas le premier ni le second. Bon, ce que nous avons vu comme étant la cause de la consommation des substances psychoactives au niveau de la jeunesse, premièrement, c'est que les jeunes sont à la recherche de l'effet que produit la consommation, sensation du plaisir, se détendre un peu. C'est ça le premier élément qui est recherché. Ensuite, et les ados ont cette curiosité de vouloir vivre une nouvelle expérience. Et comment est-ce que ça fait? Et ça donne quoi? Donc tout ça là les amène à la consommation. Troisièmement, face à de nombreuses difficultés de la vie, les problèmes de relations à la maison, à l'école ou partout, les jeunes cherchent à se camoufler dans la drogue, dans la consommation. De l'autre côté aussi, les jeunes cherchent à s'identifier à un groupe, c'est-à-dire se faire reconnaître dans un groupe de jeunes, et ce que ce groupe fait, donc de façon irréfléchie, lui aussi se mêle dedans. Et en dernier ressort, nous allons parler également de cette volonté ou bien de ce désir de vouloir améliorer ses performances sous la pression de la société. Et le jeune doit réussir, le jeune doit réussir, et on le presse par-ci, par-là, et ne sachant pas quoi faire, il va aller chercher à améliorer ses capacités à travers la drogue. Donc voilà un peu ce que nous avons trouvé comme étant la cause de cette consommation.
Merci pour cette abondante littérature sur les drogues. Je rappelle que il y a les drogues licites, celles qui sont légalement tolérées comme les alcools et les tabacs. Il y a également celles qui sont interdites. Alors on a parlé de tout ça, les alcools, les tabacs, les drogues dures, la chicha. Ceux et celles qui ont des oreilles, que nous écoutions et que nous mettions en pratique de avec les spécialistes Dr Roussama, Rapa et puis la Croix Bleue et bien d'autres. Mais il y a d'autres fléaux également que Mme Agbi a évoqué rapidement, et je voudrais qu'elle revienne là-dessus. C'est la prostitution et ses effets corollaires. Madame, voulez-vous nous les rappeler? En quoi est-ce que la prostitution également constitue un fléau qui impacte négativement la vie des jeunes aujourd'hui?
Bien sûr, nous avons cité des fléaux qui sont liés à la sexualité et des jeunes. Et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes, surtout les jeunes filles, qui s'adonnent aujourd'hui à la prostitution. Et peut-être elles pensent que c'est le chemin le plus facile pour gagner de l'argent, peut-être pour des raisons qui ne dépendent pas forcément d'elle, parce qu'il y a plusieurs situations qui peuvent amener un jeune ou une jeune fille à s'adonner à la prostitution, par exemple.
La prostitution qui est un phénomène rampant, hein. Avant, il y avait un quartier que les gens avaient à la bouche, mais je ne veux pas citer de nom. Mais les quartiers de prostitution maintenant se multiplient dans tout un peu partout à Lomé. Les banlieues nord, ouest, chacun en sait quelque chose. Eh bien, docteur Ourosama, vous êtes femme. C'est pas toujours très facile d'être certaines questions à certaines personnes. Mais qu'avez-vous à nous dire pour décourager les jeunes, aussi bien jeunes filles que jeunes garçons, des aléas de la prostitution?
Merci beaucoup. Je pense que c'est un réel fléau aussi, et il faudrait vraiment chercher les causes. Tant qu'on n'a pas retrouvé les causes, on ne peut pas vraiment lutter contre. Il faut retrouver les causes. Il y en a justement qui vous diront que c'est à la recherche de l'argent, et pas forcément parce que cette personne en veut de trop, hein. Parce que ça manque tellement que le minimum pour survivre, c'est la solution trouvée. Mais maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour soutenir les jeunes? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Est-ce qu'il peut y avoir un minimum qui permet aux jeunes d'embrasser la vie, de commencer comme ça pour pouvoir arriver à quelque chose? Parce que moi, je suis dans mon travail de psychologue, j'en reçois. Et quand la personne vous dit toute l'histoire, ce qui l'a amené là, vous serez la première à comprendre et à ne pas condamner. À côté aussi, il y en a qui... Et c'est parce que l'argent, vous voyez d'où la personne vient avant de tomber dans ce flot, vous vous dites que ben, il n'y a pas de raison. Donc il faudrait vraiment pouvoir catégoriser, ressortir toutes les causes pour pouvoir voir on attaque quelle cause avec quelle arme. Sinon la même arme ne peut pas répondre à toutes les sortes de prostitution.
Merci à vous, Dr Ourosama, Madame Agbi, Monsieur Idri, Monsieur Monchon, aussi bien pour toutes les drogues que pour la prostitution. Nous ne jugeons personne, nous ne sommes même pas dignes pour jeter la première pierre à quelqu'un, mais nous conseillons et nous disons seulement que c'est des cercles vicieux, des fléaux, mieux vaut ne pas y toucher du tout, Olivier Adja, et ainsi on pourra avoir toutes les facultés pour demander, obtenir de l'emploi ou bien créer soi-même.
Oui, bien sûr, la question, le sujet sur la drogue et la prostitution, c'est un sujet qui est sérieux ou important dans notre société. Et je crois que c'est notre avenir, l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Et je félicite d'abord les ONG et toutes les personnes, aussi bien au gouvernement que dans la société civile, qui partent en lutte contre ces deux phénomènes. Mais j'estime que on peut mieux faire. On peut mieux faire parce que lorsque vous avez un phénomène qui détruit la société, on doit partir en guerre et tout le monde doit se mobiliser pour aller en guerre contre ce phénomène. Et aujourd'hui, on parle de drogue, mais à côté de la drogue, des drogues dures, il y a des substances qu'on appelle des drogues douces, et dont l'alcool. Et parfois, quand vous voyez le processus par lequel les gens passent pas pour arriver à la drogue dure, et le processus les mène ou bien donc les conduit à d'abord consommer la drogue, les drogues dites douces. Et dans notre société, dans tous les coins, vous avez les publicités des boissons, aussi bien la bière que des liqueurs, à tous les coins de rue, et nos enfants sont exposés à cette publicité-là chaque seconde. Et ça, c'est nous les adultes, c'est notre responsabilité. La lutte passe par quoi? Est-ce qu'il faut laisser ces publicités passer sur nos médias, à la télé, à la radio, dans nos carrefours, partout? On expose les drogues à nos enfants et à nous-mêmes. Et les enfants, on sait que leur cerveau n'est pas encore mûr pour pouvoir faire certaines différences. Alors, ça, c'est une question que je me pose. Quelle est la responsabilité en tant qu'adulte de nous? C'est bien d'aller lutter contre le phénomène, mais on peut commencer la lutte en amont, en luttant contre les causes de ce phénomène. Donc, c'est ça aussi et ce que je me dis à moi-même.
Merci. Ce qu'on peut demander à l'État d'abord, c'est de créer l'espérance pour que les gens ne sombrent pas dans le désespoir. À présent, nous allons aller à la pause, mais nous rebondissons tantôt avec le public ici, ou bien les auditeurs qui pourront entrer en ligne sur le 91 36 63 75.
93.5. Canal FM.
Oui, après la pause, nous revenons ici à la Blue Zone qui nous accueille pour ce numéro spécial du club La Presse que nous animons à l'occasion du salon de l'emploi des jeunes diplômés, une responsabilité sociale dans un premier temps. Nous avons parlé de la problématique de la création d'emplois et puis le deuxième temps, les fléaux qui pèsent sur nos jeunes. Nous félicitons tous les spécialistes qui sont à nos côtés pour nous instruire. À présent, nous ouvrons les antennes au public ici, sur les lieux, ou bien aux auditeurs qui peuvent entrer en ligne sur le 91 36 63 75. Le premier auditeur en ligne, bonjour.
Ouais, Charles Sidani, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez? C'est l'évangéliste Senghor qui vous appelle.
Oui, nous vous écoutons, monsieur Senghor.
Ouais, soyez bénis. Bon, nous devons intéresser sur l'emploi des jeunes. Sauf, nous avons encore des sociétés au Togo. Nous, aujourd'hui, toutes les sociétés ont été privatisées, c'est les étrangers qui ont pris tout. Deuxièmement, je vois qu'aujourd'hui, la montée emploie plus les jeunes et l'armée. Parce que, quand on parle de l'emploi des jeunes, c'est la première priorité au Togo pour une nation. Aujourd'hui, si comme pas, il n'y a pas la moto, les motos, les taxis moto et l'armée, les gens préfèrent aller de rentrer dans l'armée. Vous-même, qu'est-ce que vous devez allez devenir. Bon, moi, une question.
Allô, M. Senghor, il est parti.
Ouais, ça, tout, vous pouvez laisser parler, après vous allez faire votre commentaire.
Allez-y, nous vous écoutons, M. Senghor.
Voilà. Bon, moi, je disais que la proposition, c'est qui? Il ne s'agit pas quand même de venir nous parler des emplois des jeunes où, toutes les années, le gouvernement, quand même, de le ministre des emplois doit aller à la télévision nous parler de tout ce qui sont passés à la retraite. Et combien de jeunes ont recruté au Togo? Voilà, c'est ça. Moi, je m'arrête ici que Dieu.
Merci, M. Senghor. C'est vrai. Les difficultés, nous en avons. Mais ce à quoi nous appelons, nous tous, l'État et nous tous, c'est créer l'espérance pour ne pas sombrer dans le désespoir. Deuxième auditeur en ligne, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour, Essie.
Bonjour.
Oui.
Vous parlez de
l'emploi des jeunes.
Oui.
C'est ça, non?
Oui, c'est ça.
Puis vous avez parlé de chicha, de la drogue.
Les fléaux qui menacent notre jeunesse.
Pardon? Je crois que vous venez de loin. Vous êtes à Lomé?
Nous sommes à la Blue Zone à Lomé ici.
Ah, d'accord. Bon, vous parlez de l'emploi des jeunes. On a quel emploi au Togo? Le peu d'emploi qu'il y a là. Les gens ont décidé de les cumuler. Ils cumulent les postes. Il nous reste quoi à faire? Personne ne travaille à part les mêmes gouvernants. Hein? Les jeunes vont trouver l'emploi où? Le Kia qu'on a créé la dernière fois. Est-ce que ça marche vraiment? On a embauché combien de personnes là-bas? La sécurité maritime, le PND, tout ça là, c'est où? Ça se trouve où? Ça dit que, vous savez, il faut alterner, c'est ce que je dis. Moi, au ballon, on va les deux assis. Il était maillé, il était maçon. C'est la loi de la nature. Il y a des cellules.
Merci.
Donc, allez, c'est nous qui souffrons. On a qu'à trouver une formule pour alterner, quoi.
Merci.
Et faire avancer ce pays.
Merci, Essie. Pour Essie, il y a une seule brévière porteuse des solutions miracles, c'est l'alternance. Dieu fera qu'on aura l'alternance ici au Togo et nous verrons si tous nos problèmes auront trouvé solution. Et comme nous avons la foi, certains disent Amen, d'autres disent Amin.
Allô?
La parole continue à circuler. L'auditeur suivant, bonjour.
Allô?
Oui.
Oui, bonsoir, comment est-ce que...
Bonjour, c'est monsieur.
Oui, c'est Ernest. Toi.
Ernest.
J'appelle depuis Mekonakwe.
De
Mekonakwe.
Mekonakwe, oui, nous vous écoutons.
Oui, je remercie ça, c'est la gentillesse.
Merci.
Bon, je vais vous parler de l'emploi de vie.
Oui.
Bon, je devrais demander, voilà, quand le résultat des concours de l'économie de finances passé depuis janvier 2021, ainsi que pour le compte de la fonction publique, passé en février 2022. Merci.
Je vous en prie. C'est vrai, ces concours, il y a un certain nombre que les jeunes ont passé, ça fait des mois, des années, on attend toujours les résultats. J'aurais bien aimé avoir le ministre en charge du travail, notre ami Gilbert Bawara, ou bien Sani Yaya, mais ni l'un ni l'autre ne sont là. Je ne sais pas si un invité, une personne ressource pourra nous en parler, mais vivement qu'on proclame ces résultats-là et que les heureux commencent leur travail et que les autres aille à autre chose. Sinon, l'attente, c'est lourd. Le suivant, oui, Olivier. Alors, nous avons écouté M. Senghor qui est revenu sur les privatisations des sociétés publiques. Si bien qu'aujourd'hui, les Togolais ne trouvent leur emploi que dans les taxis motos et les forces de défense de sécurité.
Oui, c'est on peut dire que c'est une réalité, mais on ne peut pas résumer. Donc, le problème d'emploi au Togo à la question donc de moto, taxi, etc. Non, et là, vous savez, il y a des entreprises qui marchent bien, qui sont dans les transports. Aujourd'hui, nous avons Gozem, aujourd'hui, nous avons d'autres entreprises qui réussissent très bien en faisant du moto, taxi. Donc, c'est aussi comment il y a un débouché pour la jeunesse. Je ne dis pas forcément que toute la jeunesse doit se tourner vers les mototaxis. Mais quand même, il ne faut pas aussi présenter le tableau comme si c'était les derniers de la classe. Je crois qu'il faut savoir les
obligations. Priorité à l'éditeur qui vient d'entrer en ligne. Bonjour.
Bonjour, Canal FM.
Oui, c'est monsieur.
C'est monsieur Richard depuis Copenhague.
Notre ami depuis le Danemark.
Oui, j'ai une question à poser.
Oui, allez-y.
Nous avons un grand souci, surtout nous de la diaspora. Bon, la plupart des entrepreneurs de la diaspora veulent venir investir au pays, créer des entreprises. Mais on comprend bien que le gouvernement est plus riche que la population. Mais quand tu viens pour t'installer, et tu fais une erreur de prendre un marché venant du gouvernement, dis-toi que tu as fait un arrêt de mort.
Et pourquoi?
Déjà parce que le gouvernement n'est pas un bon payeur. Tu mets toute ta somme, toutes tes ressources dedans,
mais tu peux te retrouver 2 ans, 3 ans avant que tu sois payé. C'est ça le problème.
Oui.
Parce que quand tu viens, tu mets la somme, mais quand la population elle-même, elle est pauvre. Parce que nous recouvrons, c'est ça mon problème.
Merci, Richard.
Entre-temps, je suis venu, je me suis installé en 2011, mais j'ai fait ma valise.
Et vous êtes reparti?
Je suis reparti. Mais pourtant, je suis un entrepreneur ici, ça fait 20 ans.
Voilà. Merci, ces témoignages-là qui sont fort éloquents. Les jeunes qui reviennent de la diaspora, mais qui se voient contraints de repartir parce que l'État, mauvais payeur, le marché d'abord étroit et réalité, Olivier, qui s'ajoute encore à ce que SI a énuméré, le cumul des postes, on les connaît, et puis la PIA, la sécurité maritime, et d'autres opportunités qu'on a beaucoup vantées à la jeunesse, mais dont les résultats se font toujours attendre. Olivier?
Oui, bon, de toutes les façons, c'est vrai que les cumuls des postes, ça pose problème parce que la jeunesse est formée. Nous avons donc des jeunes très bien formés et qui doivent attendre que certains libèrent les postes, donc avant d'avoir des débouchés ou des chances. Donc, et ça, c'est un problème sérieux qu'il faut régler. Ouais. Mais combien de ces postes-là sont cumulés aujourd'hui? Peut-être si vous faites la moyenne, peut-être c'est une dizaine de postes que des gens ont cumulés, alors que nous avons des milliers de jeunes qui attendent. Ouais. Donc, il ne faut pas résumer tout le problème au cumul des postes. Mais quand même, il faut demander à l'État de faire aussi des efforts. Il en fait. Mais à qui irons-nous, comme la Bible dit? Vers qui nous allons aller lorsque nous avons des problèmes, des difficultés d'emploi?
Oui, alors un auditeur qui vient de parler en ligne, bonjour.
Non, c'est juste 2 minutes, que je suis revenu dans ce pays, je vais créer mon entreprise.
Oui.
Où ça se trouve en ce moment? Ça se trouve là, où ça se trouve? Je suis en fermeture provisoire depuis longtemps. D'où ma rage. Et puis voilà.
Merci.
Et est-ce que c'est normal? C'est les mêmes gens qui ont toute la bocité. Hein? Tout l'espace économique, social, politique, tout. Les mêmes gens. Le pays ne peut pas avancer comme ça. Ça ne peut pas avancer. C'est pour ça qu'il faut alterner régulièrement.
Merci, la ville république.
Puis je voulais tirer juste sa peau à l'ANC et à son leader. Hier, je devrais le dire, mais j'avais oublié. Vous leur dites qu'ils sont vilipendés et tout, mais personne n'a porté, Jean-Pierre n'a jamais porté plainte contre quelqu'un. Ça s'est passé ici au Togo, ça se passe ici aussi. Voilà, je leur dis chapeau, c'est des vrais gens.
Merci. Et si on ne parle pas politique aujourd'hui, on y reviendra lundi prochain. Monsieur Souleymana, alors ceux qui appellent de la diaspora, qui ont écouté l'appel du gouvernement, ils sont revenus, mais se sont vus contraints de repartir. Alors, est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement peut leur dire? Vous n'êtes pas ministre, mais vous êtes proche quand même d'eux.
Merci beaucoup, monsieur Sassgaou. Mais comme nous l'avons si bien dit, c'est l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile.
Oui.
Mais à écouter l'intervenant, c'est comme il a eu des soucis.
Oui.
Mais quels sont ses soucis qu'il n'a pas pu...
Il a dit par exemple que l'État était mauvais payeur.
L'État est un mauvais payeur,
oui.
Mais quel que soit le cas, la dette publique règle tous les crédits. Quel que soit le cas, une fois que vous avez gagné un marché public, à la longue, vous serez payé.
Mais entre-temps, l'entrepreneur, lui, est harcelé par les banques et le personnel.
Mais c'est vrai. Vous avez postulé à un marché public,
oui.
Et vous connaissez les conditions sur lesquelles vous avez postulé. Le marché public ne se règle pas directement. Vous devez investir avant de pouvoir rentrer dans vos fonds.
Oui.
Donc, il doit être aguerri pour savoir que le marché public a ses conditions avant de pouvoir postuler.
Merci. Autre question qui revient souvent, c'est les concours que l'État a organisés lui-même et dont les jeunes attendent des résultats depuis des années. Encore une fois, ce n'est pas vous le ministre, mais vous êtes plus proche d'eux que nous.
Merci beaucoup. Comme vous l'avez su bien dit, Je ne suis pas ministre ni organisateur. C'est vrai que nous sommes tous à l'écoute. Donc, je pense que c'est les premiers responsables de ces ministères ou bien les techniciens qui ont la possibilité de pouvoir répondre à cette question. Merci.
Merci. Je rappelle que le sujet dont nous débattons, c'est ce salon qu'organise la Fondation Piste Carrée pour l'emploi des jeunes diplômés, avec comme partenaire l'Université de Lomé, l'ANP, naturellement le ministère développement la base de la jeunesse de l'emploi des jeunes et puis on a,
les autres partenaires,
on a parlé donc des opportunités d'emploi, on a parlé également des fléaux qui menacent dangereusement la vie des jeunes et surtout Olivier, ces fléaux qui diminuent les chances des jeunes de trouver ou de créer soi-même un emploi, c'est ça qui est important.
Oui, oui, bien sûr, nous avons été édifiés sur ces questions-là par les experts et les techniciens ici. Et nous avons compris que la drogue, la consommation de la drogue par la jeunesse, oui, ça peut altérer les facultés et réduire votre chance. Donc, nous avons vu des jeunes hein, où on dit c'était un jeune brillant à l'école, mais qui est devenu voilà un malade mental ou qui voilà se promène donc dans la rue parce que ayant consommé de la drogue, cette drogue-là, donc agit sur ses facultés. Donc, appelons notre jeunesse à faire attention, à être vigilant, et appelons la société civile à aller encore plus contre ces fléaux. Appelons l'État à encore investir plus de moyens pour préserver la jeunesse contre la consommation de ces drogues-là.
Merci Olivier, nous avons un jeune homme dans la salle ici. Bonjour l'ami.
Ouais, bonjour.
C'est monsieur
Herman Nyenda.
Herman Nyenda,
oui.
Eh bien nous écoutons.
Ok, je voulais parler par rapport au problème de l'emploi.
Oui.
Alors je ne dirais pas que c'est seulement le cumul de fonctions ou cumul de postes qu'il y a ici, mais je dirais plutôt qu'il y a aussi le nombre d'années d'expérience requises par les entreprises pour employer des gens. On peut avoir un avis de recrutement où on aura 5 ans d'expérience, alors que ces jeunes qui viennent maintenant de faire leur parcours ou bien ont leur licence ou bien leur master ne peuvent pas postuler à ces postes. Donc, si on pourrait réglementer un peu ces années d'expérience, ça serait bien.
L'expérience professionnelle qu'exigent les entrepreneurs. Alors, monsieur Otou est là. Monsieur Otou. Ah, il est parti. J'aurais bien aimé avoir une réponse d'un entrepreneur, pas du public, du privé. Pourquoi ils exigent des années d'expérience de la part des jeunes qui sont en quête du travail. Il y a quelqu'un ici? Oui, monsieur. Ah, passez le micro. Ça, monsieur.
Ok, bonjour, c'est Lucien Kofi Agbeko.
Oui, vous êtes dans la vie quoi?
Je suis entrepreneur.
Très bien. C'est vous qui demandez les années d'expérience.
Non, bon, c'est bien. Moi, je suis le responsable du groupe Lumière Jeunesse. Nous, on est dans le domaine de l'entretien des toits et le jardinage. Mm-hmm. C'est bien que, des fois, quand on demande de l'expérience professionnelle, les gens pensent que c'est avoir, il faut aller faire ce travail quelque part d'abord. En fait, l'expérience professionnelle, c'est par rapport à l'emploi qu'on veut t'octroyer. Mm-hmm. Ça peut arriver des fois que tu as exercé cet emploi, par exemple, en étant élève ou bien étudiant. Oui. En fait, c'est ta capacité de pouvoir démontrer à ces personnes que j'ai exercé cet emploi depuis que j'étais élève, depuis que j'ai fait. Ça fait partie aussi de l'expérience, en fait. Mais souvent, la mauvaise compréhension aussi de l'expérience fait que le jeune se voit à l'écart parce qu'on a dit 5 ans d'expérience. Moi, je n'ai pas fait ce travail 5 ans et ça lui tourmente. Et lui-même, il se refuse d'aller postuler. Oui. Alors que s'il arrive à prouver ses expériences, il peut gagner cet emploi.
Merci. C'est une réalité. Hein. Nous-mêmes à Canal FM, quand on recrute un animateur, un technicien, un journaliste, nous voulons qu'il soit prêt à exercer en même temps. C'est en cela qu'on demande l'expérience. Alors, c'est dire que les demandeurs d'emploi, nous devons être prêts à servir à tout moment. Oui, monsieur, bonjour.
Bonjour, monsieur.
C'est monsieur?
C'est monsieur Heg.
Heg?
Oui.
Ok, nous écoutons.
En fait, je m'adresse à l'ANP qui, à chaque fois, les entreprises viennent demander les main-d'œuvre, en fait. Oui. Mais lorsque ces entreprises arrivent, l'ANPE, je ne sais pas s'ils arrivent à négocier le salaire, le côté salaire, le côté voir avoir le SMIC par rapport au SMIC en fait.
Oui.
Mais arriver sur le terrain, par exemple, l'ANPE emploie ces jeunes-là, mais arriver sur le terrain, ces jeunes sont sous-emploi en fait. Sont sous-payés.
Oui.
Et l'ANPE n'accompagne pas ces jeunes-là qu'ils emploient. Mmh. Au lieu de les accompagner dans leurs expériences, dans leur parcours, l'ANPE n'accompagne pas ces jeunes.
Bon, monsieur de l'ANPE, il est là. Monsieur de l'ANPE, il est parti. Vraiment, cher d'eux. Merci, quand même, c'est bien noté. Je vais lui transmettre à votre place. Autre jeune là, oui, madame. Non, vous-même. Vous, oui. Allez-y. On va rapidement, oui, c'est madame.
Ok, merci beaucoup. Je suis Diana Badatana.
Mm-hmm. Nous écoutons.
Ok. Mon cas, mon souci est au niveau de l'emploi toujours.
Oui.
La plupart du temps, quand on lance les recrutements, l'âge est très limité. Or, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont pas trouvé le travail, qui prennent des initiatives aussi qui ne marchent pas.
Et qui voient l'âge augmenter.
Voilà. Oui. Et qui attendent toujours une opportunité pour pouvoir rentrer, pour pouvoir s'insérer sur le marché de l'emploi.
Oui.
Mais à mon étonnement, le constat est que quand on lance le recrutement, on dit limite d'âge, peut-être entre 25 ans et 30 ou bien 28 ans. Or, cette personne est déjà à 33 ans, 35 ans, oui. Voire j'aimerais porter cette doléance. Si on pouvait élargir
merci.
De moins 18 ans,
45 ans. Vous notez bien. Merci. Autre dame derrière vous, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, c'est madame.
Bonjour à tous. Je suis madame Lambonlari Gotayal, promotrice de Sopoto.
Oui.
Nous sommes dans la production.
Le micro.
Dans la production et la commercialisation des jus de fruits naturels.
Oui.
Bon, à propos de l'emploi, j'ai constaté que au cours du recrutement, lorsqu'on recrute les jeunes, ils viennent, ils acceptent vraiment. Si on les recrute au moment de la production et autres, lorsqu'on fait la production et autres, ils viennent. Et après, deux, trois fois comme ça, ils disparaissent. Bon, ce que je voulais dire est qu'il ne faut pas qu'on mette la responsabilité sur le gouvernement, que c'est le gouvernement qui ne donne pas de l'emploi aux jeunes, tout ça là. Il y a une part de responsabilité aussi au niveau des jeunes. Il faut qu'ils aient la volonté, au fait, de travailler aussi.
Ouais. Merci. Une personne ressource parlait de la discipline et de l'ardeur au travail. Il nous arrive de nous d'oublier. Madame, voulez-vous nous rappeler la devise du Togo, s'il vous plaît?
Travail, liberté.
Travail, patrie. Liberté, patrie. Or, il nous arrive de plus en plus, nous Togolais, d'oublier ça. C'est pas le travail que nous devons consolider, hein, la liberté pour bâtir la patrie. C'est important de le rappeler. Nous allons terminer par une jeune dame là. Madame, bonjour.
Bonjour.
C'est madame
Camara Aïchatou.
Nous écoutons.
Bon, ma question va directement à madame Abi. Oui. C'est par rapport à la consommation des produits illicites.
Oui.
J'aimerais savoir quelle solution appropriée elle nous propose. Mm-hmm. Surtout nous les jeunes filles, quand on parle de la prostitution. Mm-hmm. Merci.
Je vous en prie. Alors, madame Abi et docteur Ourosama, vous avez chacun... ok, bon, si monsieur Edry veut débler le terrain, mais allons-y rapidement, nous sommes
occupés par le temps. Ok, je pense que c'est une question très importante. Et déjà, en tant que jeune, il faut qu'on se fixe d'abord des objectifs. D'accord? Et aujourd'hui, nous avons plus d'opportunités à aller vers la consommation des substances. Eh bien, nous devons quand même prouver que voilà, nous sommes matures, nous avons des objectifs à atteindre. Nous avons quand même une responsabilité à assurer notre devenir. Et là, ça me permet de dire non à la consommation. D'accord? Et là, je voudrais un petit peu faire un lien entre la consommation des substances et le phénomène de la prostitution. Je pense que les causes ou les raisons qui poussent aujourd'hui les jeunes à aller vers la consommation, elles sont diverses. Pareil pour la prostitution. Mais généralement, les jeunes filles, les jeunes dames qui sont dans la prostitution, ça donne également au problème de consommation. Puisque avant de pouvoir supporter le coût de ce travail, il faut forcément consommer. Il faut consommer et ils sont maintenant laissés à subir une double conséquence. Donc voilà un peu. Nous devons quand même faire preuve de maturité.
C'est des cercles vicieux et des engrenages. Ceci entraîne cela et finalement à la fin, hein, le jeune, la personne se retrouve totalement broyée et puis n'a plus aucune chance de s'en sortir. Docteur Ouro, ça va?
Oui, merci beaucoup. Moi, je résume tout dans prendre soin de son cerveau. Ok? Si nous devons prendre, nous savons que nous devons prendre soin de notre corps, prendre soin aussi de notre cerveau. Nous avons dit tout de suite que la drogue sur un cerveau immature le détruit. Et si je le sais, pourquoi est-ce que je vais tenter? Ça dit plusieurs fois quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, que j'aimerais répéter, c'est les études ont montré aujourd'hui que tomber, devenir addict, c'est aussi une question de prédisposition. Il y a des études qui le montrent. Ça veut dire que 4 enfants aujourd'hui qui goûtent au cannabis, ce n'est pas les 4 qui vont devenir des consommateurs problématiques. Il y a un qui va dire ça c'est quoi ça, je ne veux plus. L'autre va dire non, je ne goûterai plus. Mais peut-être 2 ou 1 qui vont rester dedans. Pourquoi est-ce qu'ils sont restés dedans? C'est parce qu'ils ont une prédisposition. C'est que leur cerveau est formaté à la base pour accepter les drogues. Maintenant que nous ne pouvons pas d'avance savoir si c'est Kofi ou Kodjo qui reste dedans, le mieux c'est de ne pas toucher.
Encore voilà. Une fois, tout merci. Commence par la tête. C'est très important. Madame Abi.
Oui, le monsieur de Rapa vient de nous dire qu'en tant que jeune fille, il faut savoir se fixer des objectifs. J'aimerais aussi ajouter ceci. En tant que jeune fille, il faut savoir éviter la voie de la facilité. En tant que jeune fille, si on est né d'une famille pauvre, ça ne veut pas dire qu'on est prédestiné à la prostitution. On peut prendre sa vie en main et chercher à faire d'autres activités que de se livrer à ce qui est facile. Peut-être les prostituées vous diront que ce n'est pas aussi un métier facile que ça.
Merci Madame Agui. Nous avons connu un orphelin très pauvre qui est devenu président de la République de ce pays. Et nous connaissons des orphelins pauvres qui sont aujourd'hui des chefs d'entreprise, de grands professeurs d'université. La pauvreté n'est pas une condamnation à mort. L'essentiel, c'est de se dire dans la tête, je veux réussir, hein, et je vais y arriver. Les plus belles choses ont aussi une fin. Nous allons devoir nous arrêter ici, encore que, avec l'indulgence de la technique, nous avons dépassé le temps. Remercier le ministère du développement de la base qui nous a offert cette occasion de délocaliser le club de la presse ici. Remercier également la fondation Piscaré et ses partenaires qui s'offrent pour 2 jours aux jeunes. Sur la problématique de l'emploi des jeunes. Merci à nos personnes ressources, mais c'est une aventure qui va continuer sûrement au studio de Canal FM ou ailleurs. Merci à Olivier, merci à tout le grand public. Bon week-end et nous nous retrouvons lundi prochain si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.